Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct. Chacun de nos invités étant chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, coronavirus, une conversation mondiale, conclusion provisoire. Depuis le 30 mars, en plein confinement, toute l'équipe du temps du débat, et je veux les citer les unes et les autres, Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bail, Hugo Boursier, Manon Prissé et Louise André, se sont mobilisés pour publier chaque jour un texte inédit d'intellectuels, d'artistes et d'écrivains du monde entier afin de nous aider à comprendre, depuis le lieu où chacun et chacune d'entre eux vit, le caractère mondial du virus. Venu d'Inde, de Chine, du Brésil, du Chili, du Mexique, des États-Unis, du Japon, du Liban, d'Italie, de Suède et de bien d'autres endroits de la planète, tous ces textes que vous pouvez lire encore sur le site de France Culture ont nourri le débat sur l'arrêt du monde et le mouvement, sur le dilemme entre le recentrage sur soi et la solidarité avec les autres, sur la proximité et la distance, l'ordinaire ou l'exceptionnel. Pour en débattre ce soir, le philosophe Ali Ben Matlouf, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur d'un ouvrage qui nous concerne puisqu'il s'intitule « La conversation comme manière de vivre » et vous avez accepté de clore cette série de réflexions par un texte publié cet après-midi sous le titre « Nos vies sont en conférence les unes avec les autres ». Avec nous également Véronique Tadjo, bonsoir, vous êtes là avec nous ?
Oui, bonsoir.
Vous êtes écrivaine et vous nous avez fourni un des premiers textes de cette conversation mondiale. Avec nous également Anca Damian.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste roumaine, bonsoir, et vous avez titré le vôtre « Nous sommes seuls, mais nous rigolons ensemble ». Et enfin, l'anthropologue et médecin italien Roberto Beneducce, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et vous êtes donc auteur d'un conte des deux mondes dans cette série des conversations mondiales. Et il ne faut pas remercier que l'équipe du temps du débat, mais tous ces auteurs, autrices qui, d'un bout à l'autre de la planète, ont contribué à cette conversation, 71 textes depuis maintenant un peu plus de 3 mois. Et chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, vous les avez lus, ces textes, pour pouvoir justement réfléchir à la possibilité ou non d'une conversation. D'ailleurs, est-ce que c'est une conversation, ce qu'on a inventé sous ce terme « conversation mondiale » Ali Ben Matlouf ?
Oui, au sens ancien du terme, d'être en commerce, c'est-à-dire en relation humaine. Il est vrai que quand on converse, la parole appartient moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute, comme disait Montaigne. Et là, l'autre moitié pourrait sembler évanescente parce qu'elle n'était pas directe in vivo. Mais de fait, il y a eu à la fois une volonté de conversation, mmh. Et l'usage de tous les éléments propres à la conversation. La voix, par les balcons, les fenêtres, le son des casseroles, qui sont comme des apophthegmes, ici et maintenant à 20h, je dis quelque chose. Les banderoles. Et aussi bien Montaigne que Wittgenstein avaient comparé la conversation à une balle. On lance une balle et on attend d'en recevoir une pour rebondir, se déhancher. Se déhancher, disait Montaigne. Eh bien là, ça a été plutôt qu'une balle, une bulle, où le confinement m'a donné l'impression par toutes les personnes qui se sont adressées par les vidéos, les visioconférences, etc., qu'ils étaient comme dans des bulles de BD et qu'ils attendaient justement quelqu'un qui puisse renvoyer en quelque sorte ou faire miroir de cette bulle.
Véronique Tadjo, vous avez fourni donc un texte à la conversation mondiale au tout début, alors que nous lancions cette idée, en ne sachant pas évidemment que cela durerait aussi longtemps, qu'il y en aurait 71 publiés sur le site de France Culture, et vous avez essayé d'expliquer effectivement combien cette question de la crise du coronavirus était une façon de dire les inégalités du monde, d'une certaine façon, Véronique Tadjo.
Oui, absolument, parce qu'on a cru à un moment donné qu'on était tous à la même enseigne, et puis on s'est aperçu au fur et à mesure de la pandémie que, en fait, elle révélait des inégalités profondes dans nos différentes sociétés. Mais ce qui m'a marqué par rapport à la conversation, c'est le fait que chaque pays, en fait, a sa propre dynamique. Et aussi, c'est parce que le virus est arrivé à différents moments dans différents pays. Donc, cette conversation mondiale, elle nous a permis de nous centrer sur d'autres géographie qu'on n'aurait pas connue. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas su exactement ce qui se passait, je ne sais pas,
au Chili.
Par exemple, en Russie, au Chili, ou même au Brésil, parce que chaque pays tend à accaparer l'information. Et donc, on est sans cesse bombardé par des informations, mais des informations locales, nationales.
Ouais. Ali Ben Maclouf.
Oui, c'est ce que dit ma collègue est tout à fait juste, puisque la rendre visible, c'est le propre même, là c'est rendre visible les inégalités, mais c'est le propre même d'une maladie. La maladie est le ver grossissant déjà de la santé. Tant que l'on va bien, eh bien la santé nous cache la moitié du monde. Eh bien la maladie, c'est le ver grossissant pour les déterminants sociaux de la santé comme l'inégalité, mais pour également la santé elle-même. On ne connaît la santé que par la maladie. Donc si vous voulez, la maladie a été un élément pour rendre visible non seulement les inégalités, mais en général les déterminants sociaux de la santé et même la santé elle-même, puisque c'était Jacques Rivière qui le disait en répondant à Artaud en 1924. Il dit, quand on a la santé, elle nous cache la moitié du monde. Et bien là, on n'avait pas cette santé parce que la pandémie était un phénomène de santé publique et du coup, nous avions une visibilisation du monde entier par la maladie.
Et parmi ces pays que peut-être on n'aurait pas vu ou on n'aurait pas entendu dans ce contexte, dans un autre contexte que le coronavirus, il y a votre pays, Anca Damian, la Roumanie. Vous nous avez livré un très très beau texte qui s'intitule « Nous sommes seuls mais nous rigolons ensemble ». Vous êtes cinéaste en Roumanie et vous nous avez expliqué dans ce texte, d'abord le caractère, pourrait-on dire, national, s'il y a un caractère national roumain, enfin en tout cas les tendances de ce caractère. Vous dites les hauts sont sublimes et les bas sont abyssaux, et vous vous posez la question de savoir si il y aurait une opinion mondiale, ou au contraire si chacun on voyait à l'occasion de cette crise midi à sa porte d'une certaine façon, si on ne regardait que ce qui concernait son propre pays.
Pour moi, c'est plutôt la vision d'un artiste qui m'intéresse sur le monde. Et je veux dire que, premièrement, que vos conversations, c'était les seules informations que je voulais avoir sur la crise, parce que toutes les autres informations qui viennent par le média sont plutôt dirigées pour construire la peur, pour construire une image de la société, mais pas le sens de la société. Quel est le point de vue de quelqu'un qui cherche le sens de la vie et pour qui parce que aussi les philosophes et les sages s'isolent pour certains temps pour réfléchir. C'est pas grave de t'isoler pour certains temps. En plus, tu dois, dans cet isolement, on pense aux choses profondes, parce que c'est la silence qui nous entoure, nous dirige vers nous-mêmes, vers le profond, nous-mêmes en profondeur de nous-mêmes.
Oui, d'autant que cette crise est intervenue à un moment très important pour les spiritualités, en tous les cas, puisque c'était les Pâques orthodoxes, les Pâques catholiques, c'était également Pessah, c'était également, il faut le rappeler, le Ramadan, et que tous ces moments sont des moments, effectivement, à la fois de rassemblement communautaire dans sa propre communauté, et aussi sur soi-même, pour réfléchir à sa propre condition, et c'est intervenu à ce moment-là.
Oui, en plus, c'est toujours réfléchir au sens du monde actuel. Est-ce que la société, est-ce que il y a plus de questions que cette crise qui entre et surgit? Et ça, c'est important de le poser. Et c'est important pour moi. J'avoue que ce que vous avez fait, c'est une quête qui m'a donné une image du monde. Plus profonde que toutes les informations que les médias véhiculaient.
C'est vraiment très aimable, mais je ne crois pas que ce soit aussi gigantesque que cela tout de même. Mais
non, je veux dire, même si ce sont des petits morceaux, sont des pensées, si on cumule tout ça, on a plus de vision sur la vérité que sur l'apparence.
Vous disiez à la fin de votre texte, et c'était très beau, dans les églises vides, les prêtres ont célébré la messe en chantant « Jésus est ressuscité », mais personne n'était là pour leur répondre. Les cloches ont sonné dans une ville morte, mais dans les rues, la lumière a commencé à passer d'une personne à une autre, puis a rejoint les immeubles. Ce soir-là, un voisin a sonné à ma porte. « Vous voulez la lumière ?» m'a-t-il demandé. Ali Ben Makhlouf.
Oui, mais les adeptes de toutes les spiritualités ont tout de suite compris que la non-action pouvait être tout aussi généreuse que l'action, et que la non-action, le fait d'être confiné, a été précisément d'abord une application du principe d'éthique médicale, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et en l'absence d'un vaccin, en l'absence d'un traitement, il restait le confinement que les adeptes de toutes les spiritualités ont appliqué comme un principe de non-action. Et souvent, la non-action n'apparaît pas dans sa générosité, elle est moins au jour.
Alors qu'elle l'est.
Alors qu'elle est.
Oui, Roberto Beneducci, vous êtes avec nous. Je rappelle que vous êtes anthropologue et médecin. Et cette crise du coronavirus a donné lieu à des centaines et des centaines de tribunes dans le monde entier, dans tous les grands journaux, etc. Mais aussi à des débats intellectuels. Vous citiez dans le texte de la Conversation mondiale le débat autour de la vision d'Agamben ou encore des expressions de Bruno Latour. Et c'est vrai que c'était un moment où on a vu surgir des pensées qui étaient mises à l'épreuve, pourrait-on dire, Roberto Beneducci, par la crise. D'ailleurs, vous ne voulez pas qu'on dise la crise.
Oui, sans doute, mais je vais revenir sur la légitimité du mot crise. Et effectivement, il y a eu une multiplication, une prolifération de débats, mais ce que je tiens à souligner, en reprenant un peu les premiers mots sur la conversation, c'est que le monde entier a été mis en relation. Et ça, c'est aussi un fait positif. C'est un fait qui a mis en évidence une curiosité, une volonté de savoir de la part de toutes et tous. Les collectivités, les sociétés ils se sont appropriés des discours des scientifiques. Je n'ai jamais vu une telle volonté de lire les textes, même les articles scientifiques les plus complexes ont été dévorés par des gens qui n'étaient pas familiers avec les revues scientifiques. Et ça a aussi, de sa part, mis en jeu une dynamique très intéressante, c'est-à-dire, ça a été évident, désormais on peut le dire, entre guillemets, l'ignorance des experts. Et les experts ont continuellement remanié les données, les chiffres, les interprétations, les perspectives. Donc,
en tout cas, ils ont montré à un grand public que la science avance en tâtonnant, en avançant, en reculant, en changeant d'avis, et on a eu une sorte de mise en scène, mais involontaire justement, des doutes qui sont au cœur du principe même de la science.
Oui, oui, ça c'était vraiment quelque chose qu'on peut considérer comme un des profils les plus intéressants de cette tragédie du coronavirus. Donc, curiosité, volonté de savoir, mais aussi s'approprier. Jamais j'avais vu une telle quantité de critiques et de méfiances rendu public par rapport à l'Organisation mondiale de la santé et aux institutions sanitaires. Donc, la volonté aussi de mettre en évidence les limites des experts, la doute de ces dernières, mais aussi un troisième profil qu'il faudra mettre en premier plan, aussi les cynismes pragmatiques des institutions qui, dans l'ignorance, ont continué à prendre des décisions. Et il faut le dire, parce que si le conflit, la méfiance ont été nourris par cette pandémie, a été aussi par rapport à des choix que les gouvernements, les institutions ont pris sur la base d'informations très floues, très confuses. Et donc, nous avons pu mesurer toute la dimension politique qui, d'autre part, les anthropologues, les historiens connaissent bien la dimension politique de la santé, de la maladie, de la cure. Mais cette fois-ci, ça a été tellement évident que quelque chose, à mon avis, va à changer. Je reprends les mots de quelqu'un qui a parlé avant moi, qui a parlé de cette épidémie comme quelque chose de révélateur. Oui, la pandémie de coronavirus, plus que d'autres événements peut-être, a mis en évidence, a révélé beaucoup de contradictions et de conflits. Et je pense qu'on retournera là-dessus. Mais entre autres aussi, les questions, pas seulement des inégalités, mais aussi du racisme par rapport à la santé.
Ali Ben Makhlouf.
Oui, les incertitudes scientifiques font partie de la science. Notre collègue psychiatre dit limite de l'expertise, je dirais limite de l'expertise individuelle, mais pas de l'expertise collégiale. L'expertise collégiale avance en termes de précision sur fond d'incertitude. Souvent, on pense que la précision va aller avec la certitude. Non, vous pouvez être incertain et très précis. Et nous savons beaucoup de choses très précises sur cette pandémie, les complications au 9e jour, les formes de contamination, le génome déjà décrypté. Donc les précisions sont là et les incertitudes, là, il y a un étagement des incertitudes, les incertitudes par manque de données, les incertitudes parce que nous ne sommes pas habitués à anticiper les conséquences de nos décisions actuelles. On a tendance à penser qu'on agit uniquement à partir des vérités que nous possédons déjà. Or, nous pouvons, là, on doit précisément travailler autrement
en marchant d'une certaine façon.
Oui, mais aussi en travaillant avec les hypothèses et pas avec les vérités. Et anticiper à partir d'hypothèses, eh bien, beaucoup de gens étaient un petit peu déconcertés.
Alors, Rémi Baille, de l'équipe du Tour du Débat, a fait un travail formidable depuis une semaine. Il a lu tous les textes de cette conversation mondiale. Il en a tiré des sortes de, disons, de permanence. Et il dit, il y a des tensions. Ces textes viennent de partout. Nous les avons commandés à des écrivains, des intellectuels, des artistes du monde entier. Il y a des tensions entre l'ordinaire et l'exceptionnel, entre l'être proche et l'être à distance, entre le mouvement. On s'est arrêté, il va falloir repartir sur la question de l'expérience, apprendre d'un côté et apprendre en par le ressenti d'une certaine façon, par la question du sentiment, la réflexion. Pense-t-on à soi ou doit-on penser aux autres, etc., etc. Toutes ces questions sont des questions qui ont été rebattues dans ces 70 textes. Véronique Tadjo, vous vous inscrivez dans laquelle ou dans plusieurs de ces réflexions, justement?
Ben, je vais dire, pense-t-on à soi ou pense-t-on aux autres? Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très très marquant, parce que dans des sociétés où la liberté individuelle est plutôt mise en avant, on s'est tout à coup rendu compte que bon, fallait vraiment penser aux autres et penser à la collectivité avant tout. Et si vous voulez, toutes les mesures sanitaires allaient dans ce sens. Ce n'est plus, même en tant qu'individu, si on arrivait à se protéger, cela pouvait néanmoins, on pouvait néanmoins contaminer d'autres personnes.
Bien entendu.
Et donc c'est pour ça que, par exemple, il y a eu de grands débats autour du masque, parce que le masque, ce n'est pas pour se protéger soi-même, mais c'est pour protéger les autres.
Oui, mais bien entendu, mais Véronique Tadjou, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas simplement des individus individualisés, rentrant chez eux seuls, et de l'autre côté la société, il y a aussi les gouvernements. Et ce que l'on a vu, c'est ce qui est assez formidable, c'est qu'effectivement, on a vu que face à ces mêmes questions posées dans des cultures extrêmement différentes, les réactions des gouvernants ou des gouvernements étaient très différentes aussi, Ali Ben Makhlouf.
Ah oui, très différentes, parce que il y a eu d'une part, si vous voulez, l'expertise scientifique. Évaluation de la pandémie et de ses conséquences. Il y a d'autre part la gestion du risque par les décideurs politiques. Et ce dialogue entre les décideurs politiques et l'expertise scientifique a été décliné sous différentes formes. Par exemple, en France, le conseil scientifique a tout de même émis plusieurs avis, mais sur fond d'une conversation quotidienne au téléphone pendant 2 à 3 heures entre les membres, c'est ce qu'ils disent. Donc il y a eu ce maintien de la conversation. Regardez aux États-Unis, la Pandemic Task Force de Trump a très vite été arrêtée parce que l'idée d'une discussion lui semblait inutile. Or, ce n'est pas parce qu'une chose est discutable qu'elle est inutile. Ça, c'est un des sophismes de M. Trump.
Sur ce point, Roberto Beneducci.
Oui, j'ajouterais seulement que cette situation a mis en évidence pas seulement la faiblesse, la contradiction des gouvernements, des institutions, mais aussi le fait qu'on peut bien se dire qu'il n'y a eu aucune décision partagée et les intérêts locaux et nationaux ont pris la relève, ils l'ont dominé. Et donc, ça, c'est aussi une leçon à tirer de cette situation. Je dirais que c'est pas seulement les différences des classes ou la question raciale qu'on a pu observer, mais c'est aussi comment le doute et l'incertitude a engendré un conflit politique entre les pays. On a souvent dit coopération, on a dit souvent partageons les données, mais nous avons vu aussi combien
la,
de
retards. La concurrence.
La concurrence, les vaccins, la leçon des vaccins est seulement la dernière. Je répète, quand je dis il ne s'agit pas des crises, il ne s'agit pas de la première fois qu'on connaît ces cynismes de la science, et c'est pour dire que dans le passé, on a connu des choses semblables. Mais il faut se le dire, il faut apprendre, il faut éviter de l'oublier à nouveau. Et la science n'est pas un sujet hors du contexte du champ politique. Et la science n'est pas neutrale par rapport aux enjeux du politique. Et je voudrais aussi ajouter, lorsqu'on on disait avec, je pense, Véronique Tajot, la question de la révélation, cette pandémie a révélé aussi les différentes géographies. Et je vais ajouter aussi qu'elle a révélé aussi des différences temporalités. Et à partir de la différente temporalité par laquelle la pandémie s'est révélée, nous avons pu mesurer effectivement comment il y a des histoires parallèles, pas seulement, il n'y a pas seulement une histoire de la pandémie. Chaque pays a sa narration de cette pandémie, ses décisions, et elle a mis en évidence aussi un rapport très particulier avec la situation de la maladie, de l'épidémie. Donc, il faudra aussi renoncer à un discours universel de l'histoire de cette pandémie. Il faut repartir de ces différences pour s'interroger aussi sur la capacité des sujets locaux de répondre, comment ils répondent à cette bizarre socialité qu'on a découverte, à cette peur qu'on soulignait bien de la part de quelqu'un avant, qui a été nourrie par les médias, comment chacun et chacune a réagi à cet effort de produire un discours hégémonique qui a échoué.
Merci Roberto Beneducci. On vous retrouve dans un instant avec Véronique Tadjo, avec Anka Damian et avec Ali Ben Makhlouf pour discuter de la conversation mondiale, ces textes que l'équipe du Temps du Débat a collectés pendant, texte inédit, pendant toute la durée du confinement et depuis, il y en a 71 à lire sur le site de France Culture. Et puisque nous sommes à Paris et que nous avons parlé au monde entier, From Paris with Love de Melody Garlo.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Lovers tucked into a quiet cafe, sat beneath a shade of red. They fall in love like falling out of bed. Half a silhouette of passerby, have a glass within my hand. Drink to life as if there is no end. Maybe one day I will see you. Maybe one day I will see you soon.
de Mélodie Gardot, From Paris with Love, dans cette émission du Temps du Débat qui conclut cette année du Temps du Débat, puisque cette année a été marquée évidemment par la crise du Covid, et que cette crise a provoqué donc cette idée au sein de notre équipe de commander des textes à des écrivains, des intellectuels, des artistes du monde entier. Sur cette question, Anka Damian, qu'est-ce que vous diriez, vous, de ces couples qui ont été déterminés par tous ces textes, l'invisible d'un côté, le fatalisme de l'autre, le penser à soi, le penser aux autres, le mouvement, puisqu'on a été dans un moment d'arrêt et de redémarrage, ou encore la question d'être proche ou d'être à distance. Tout cela, c'est des questions qui ont été brassées dans tous ces textes, mais également brassées pendant toute cette période.
Oui, je veux dire que c'est comme Yin et Yang étaient plus évidents dans tout. Chaque chose, son opposé devenait vivante devant nous.
Le Yin et le Yang, oui, c'est ça.
Oui. Et d'un coup, moi, comme j'ai dit, on connaît quelqu'un quand on lui donne le pouvoir. C'est toujours, on connaît vraiment l'âme de quelqu'un quand on lui donne la peur. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il va faire avec la peur à ce moment-là, s'il considère l'autre une autre version de soi-même, ou s'il considère l'autre l'ennemi de sa, mm-hmm. De sa intégralité? Pour moi, c'est d'ailleurs dans mes films, j'ai dit la même chose depuis toujours.
Mais quand on regarde et quand on lit ces textes, à part des textes très durs sur le Brésil que nous avons publié et sur Jair Bolsonaro, ou d'autres très durs sur Donald Trump, on s'aperçoit tout de même que beaucoup de ces textes nous disent que ce qui a surpris ceux qui les ont écrits ou celles qui les ont écrits, ces textes, eh bien, c'est justement une certaine bienveillance, une certaine amour de l'autre, un certain, disons, quelque chose d'assez positif dans cette crise. Est-ce que vous pensez aussi, Anka Damian?
Oui, je pense toujours qu'une crise est révélatrice et qu'elle te force d'avancer pour ceux qui avancent. Pour ceux qui, je veux dire que c'est pas tout le monde, pour les gens qui ne sont pas arrivés, ils vont tomber, ils vont être pires qu'avant. Mais pour les gens qui se cherchent soi-même, qui sont en évolution, ils seront mieux avec chaque problème. Parce que on n'avance pas dans la tranquillité, ce n'est pas la.
Bien sûr. Ali Ben Malklouf.
Oui, le confinement, à propos de la collecte, de l'être collectif de tout à chacun, le confinement a été comme le terrier d'Alice au Pays des Merveilles, mais comme une expérience de pensée. Pour Alice, c'était une expérience onirique, mais pour nous, c'était comme une expérience de pensée, c'est-à-dire, on va mettre en suspens plusieurs facteurs, on va appuyer sur pause, a dit dans un des textes le cinéaste Schlöndorff, pause et réfléchir, donc ça s'appelle une expérience de pensée, et en fait, c'est une expérience de pensée, mais qu'on a vécue. Et cette expérience de pensée a révélé que nous étions chacun une collectivité. C'est-à-dire que l'idée que l'individu est une valeur ultime ou suprême est complètement tombée en miettes, parce que nous portons en nous la société. La société, ce n'est pas juste un ensemble de conditions matérielles extérieures aux individus. Les individus sont directement des êtres collectifs sociaux.
Et surtout, Véronique Tadjot, puisque vous avez été l'autrice d'un des premiers textes de cette conversation mondiale, on a dialogué avec soi-même, et peut-être si je vous demandais de refaire un texte aujourd'hui sur cette crise, vous ne l'écririez pas de la même manière, parce que on a tellement été en dialogue avec soi-même qu'on a changé d'avis plusieurs fois.
Oui, tout à fait. Et je crois que le ressenti, le thème du ressenti est tout à fait juste. Et ce qu'il y avait de bien dans les textes, c'était justement d'avoir d'autres ressentis et de, en quelque sorte, les comparer avec les nôtres. Mais ce que je trouve, pourquoi j'écrirais un texte différemment, c'est parce que je trouve qu'aujourd'hui, le sentiment d'injustice s'est révélé, véritablement. Je trouve que maintenant, c'est ce qui est le plus important par rapport à cette pandémie, c'est comment on va réussir à redonner un peu d'espoir à toutes sortes de personnes, à des minorités raciales, aux jeunes qui se sentent complètement abandonnés et qui voient leur avenir tout à coup bloqué, même aux vieilles personnes, comme on l'a vu, aux personnes âgées. Il y a donc plein de secteurs, et même aux pays nord-sud, on a cru que cette pandémie allait réconcilier en quelque sorte le monde, mais on l'a dit tout à l'heure, la cassure est encore entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc il y a toutes ces choses-là qu'on va devoir vraiment résoudre si on veut repartir.
Roberto Beneducci,
un petit peu meilleur.
Ouais. Roberto Beneducci, vous disiez dans le texte de la Conversation mondiale que nous assistions à une étrange prise de parole. Qu'est-ce que vous vouliez dire par cette étrange prise de parole ?
Mais c'est un peu ce que je disais lorsque j'ai commencé à parler, c'est-à-dire que les gens ont pu voir comment le choix, par exemple, le choix politique concernant la santé publique, ont une responsabilité aussi dans les retards et dans les difficultés rencontrées lorsqu'on a dû hospitaliser des centaines de personnes. Les personnes ont bien compris comment des choix politiques peuvent avoir un impact direct sur la vie et sur la mort. Donc, l'expérience de cette épidémie, de cette pandémie, a réveillé un esprit critique, est devenue vraiment une occasion, une opportunité d'insurgence, de prise de conscience, et donc aussi une volonté de prise de parole. D'habitude, nous sommes presque habitués, hypnosés par la parole des experts. La télé nous tout chaque soir, chaque jour, avec des experts qui disent quelque chose sur n'importe quoi. Je pense que cette pandémie, touchant les corps de tout et chacun, a poussé les personnes à prendre la parole, à se méfier de ces discours, de ces experts, ainsi que des choix des institutions. Donc, à mon avis, il y a un caractère politique évident et précieux de cette crise, de cette pandémie qu'il faut bien souligner. D'autre part, tout en assumant dans sa force la notion de relation. J'étais en train de penser, en écoutant notre collègue philosophe, aussi à la notion d'identité, relation de chamoiseau. Je pense qu'effectivement, on a découvert que cette relation est notre point de force. On ne peut pas agir seul. Les problèmes ne peuvent pas être résolus que collectivement. Donc, on a redécouvert cette exigence
de la relation.
De la relation et de changer les choses de manière collective, pas de manière individuelle. Il y a une sorte de goutte de mobilisation, pour paraphraser le livre de l'historien Lettefarge. Ce n'est pas les gouttes d'archives, c'est les gouttes de mobilisation.
Le goût des mobilisations, c'est ça, oui.
Et donc, c'est précieux. Je dirais aussi une autre chose. Avant, vous avez dit les mots crise ne vous plaît pas. Effectivement, on peut parler des crises dans le sens des crises historiques, sociales, économiques, mais dans ces cas, c'est qu'on a pu découvrir, c'est qu'il y avait tellement de signes prémonitoires, d'anticipation, d'épidémies plus ou moins circonscrites, et qui, avec leurs différences, avec leurs différentes géographies, avec leurs différentes épidémiologies et virologies, ne font que parler d'une crise du rapport entre les êtres humains, les animaux, l'environnement. Et c'est évident que cette crise de ces rapports est à son tour révélatrice aussi, encore une fois, des différences sociales et économiques évidentes. Vous avez mentionné le Brésil, et on a pu, pendant un certain temps, laisser dans les mains des écologistes la conscience critique de ce qui se passe dans les minorités au Brésil. Nous avons pu toucher maintenant, on ne peut pas plus les oublier, les données, que les premières à payer un prix élevé sont justement les minorités indiennes au Brésil, comme les plus pauvres aux États-Unis.
Il y a d'ailleurs un texte qui a été livré par un des spécialistes équatoriens de ces questions, justement des communautés enfin autochtones en Amazonie, et de la du sacrifice qu'on leur fait faire de leur vie dans ce contexte de crise. Quelques mots justement sur cette question, Ali Ben Makhlouf, qui était abordée à l'instant même, de cette mise en cause de la parole publique, des avis sur les experts, etc., etc. Vous avez travaillé longtemps au comité d'éthique national d'éthique en France, et vous avez beaucoup réfléchi en tant que philosophe à ces questions justement de la parole publique.
Oui, je crois que il y a un point très important, c'est que tous les avis ne se valent pas. On peut difficilement dire que tous les avis se valent, parce que c'est un des éléments qui fonde le discrédit de la science, qui devient une simple opinion parmi d'autres chez tous les dirigeants d'extrême droite de cette planète. Donc tous les avis ne se valent pas. Il y a d'un côté le débat public argumenté, la délibération publique. Il y a d'un autre côté, les décideurs politiques qui sont dans l'obligation d'action, même quand ils n'ont pas toutes les données. Et il y a l'expertise scientifique qui, parfois, est mal entendue, si je puis dire. Quand, par exemple, les épidémiologistes disent « surveiller, tracer, isoler », les gens entendent politiquement « contrôle des libertés, perte des libertés ». Or, précisément, il y a un malentendu sur les termes. Jamais un épidémiologiste ne pense à la surveillance au sens d'une perte des libertés. Donc, vous voyez, donc il faut absolument un dialogue.
Ce que vous voulez dire, c'est que peut-être les connaissances générales des populations et de nous-mêmes avant cette crise, en santé publique, n'était pas
très déficiente.
N'était pas très large.
On a beaucoup avancé dans tout. Vous avez cité le comité d'éthique. On a beaucoup avancé dans tout ce qui est assistance médicale à la procréation, diagnostic prénatal, préimplantatoire, fin de vie. On a très peu avancé sur l'éthique de la santé publique.
Parce que d'une certaine façon, on avait oublié
ces grandes
crises d'infection
qui sont pourtant partout dans le monde, sauf dans le monde développé.
Un dernier mot peut-être à vous, Roberto Beneducci, puisque vous terminiez votre texte pour la conversation mondiale en disant la véritable immunité, le seul vaccin efficace, c'est au fond de conserver la mémoire du passé, de ce qui vient de se passer. Alors, ça parle à l'historien ou au journaliste d'histoire que je suis. Effectivement, il faut documenter ce qui s'est passé, mais nous avons des documents gigantesques. Nous avons de quoi travailler des centaines d'années autour de cette crise du coronavirus, tant elle a produit des cris. Très brièvement.
Tout à fait d'accord. D'ailleurs, la mémoire a surgi aussi dans ces cas, a été bien démontré par le discours circulant, je pense surtout à l'Afrique, après les mots qui ont été prononcés par certains experts français sur la possibilité d'utiliser les vaccins en Afrique. Là, c'est évident que c'est la mémoire qui continue à être peut-être d'une manière crispée et mise en évidence par des choses qui n'est pas facile à maîtriser.
Comme le disait tout à l'heure, effectivement, Véronique Tadjo, que je remercie, ainsi qu'Anka Damian, vous-même, Roberto Beneducci, et vous, évidemment, Ali Ben Makhlouf. Je rappelle que votre livre s'appelle « La conversation comme manière de vivre » et que vous avez toutes et tous lu ces 71 textes publiés sur le site de France Culture à la page de « La conversation mondiale ». Je voudrais conclure en disant que cette année a été exceptionnelle pour moi, et je remercie toute l'équipe qui a composé le temps du débat depuis le début de cette année, qui a été très bouleversé, on l'a compris effectivement, avec en particulier cette crise, Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier, Manon Prissé, Louise André, également Antoine Tricot qui est venu en renfort de temps en temps pour nous. À la technique aujourd'hui, il y avait Jean-Guilain Meige, à la réalisation Perret Legras. La semaine prochaine, vous retrouvez à cette même place Hervé Gardette pour les rencontres de Pétrarque, et je serai là tout de suite après pour revenir pour le temps des débats d'été.